l'automne de la même année, une élection partielle se déroule dans la circonscription d'Outremont. Deux candidats principaux s'affrontent. Le général Laflèche, du Parti libéral, et un jeune avocat montréalais, Jean Drapeau, qui porte les couleurs du Bloc populaire, un parti politique issu de la campagne du plébiscite. Diverses personnalités appuient la candidature de Drapeau, dont Henri Bourassa. Ce dernier, alors âgé de 74 ans, est une légende vivante, le symbole d'un certain nationalisme. Depuis la guerre des Bourgs, il s'est opposé à la participation du Canada aux guerres de l'Empire britannique. Député à Ottawa et à Québec, il a fondé le journal Le Devoir, et pour lui, la langue est gardienne de la foi. Son intervention en faveur du candidat des conscrits, Jean Drapeau, ne suffira pas à assurer à ce dernier la victoire, mais elle montre la vigueur de celui qui fut, pendant plusieurs décennies, le plus grand orateur canadien-français.
Mon jeune ami, M. Drapeau, se passe comme candidat des conscrits. Le blâme pas. Conscrit lui-même. Il fait appel aux jeunes gens de son âge. Ils sont appelés les premiers à porter le poids de cette politique néfaste. Je viens de vous demander aujourd'hui de donner un vote. Pardonnez-moi, jeune homme. Non pas tant en faveur de Jean Drapeau, des hommes forts, mais de donner un vote de protestation contre la politique qui nous aveugle, qui nous ruine, qui décime notre jeunesse, qui la corrompt. Allez donc voter pour donner une leçon aux hommes qui foulent aux pieds tous les principes de la liberté britannique, et c'est de cela que je me réclame. Qui foulent aux pieds tous les engagements d'honneur qu'ils ont pris envers la nation canadienne, veulent aujourd'hui vous aveugler avec des raisons comme celles qu'on vous a données qui n'en sont pas, veulent aujourd'hui faire appel à votre intérêt, faire appel à une presse servile. Allez, sans tapage, sans violence, et dans toute sûreté de conscience, donnez un vote intelligent.
Alors que la guerre se poursuit, Montréal participe à son insu au développement de l'arme atomique dans le cadre du projet américain Manhattan. L'Université de Montréal, dont les nouveaux locaux sont inaugurés officiellement le 3 juin 1943, accueille des chercheurs venus de divers endroits qui travaillent sur des aspects spécifiques de l'atome. Le physicien montréalais Pierre Demers, qui deviendra par la suite professeur de physique nucléaire, était du nombre de ces savants. Mais il ignorait à quoi serviraient vraiment les résultats des recherches qu'il effectuait dans ce laboratoire.
C'était un laboratoire spécial qui existait dans une confidentialité ou dans un secret assez marqué et qui était destiné à étudier des questions nucléaires. C'était donc un organisme du Canada, mais il y avait beaucoup de personnes venues de Grande-Bretagne. Il y avait un grand nombre d'Anglais, et c'était à leur intention que le gouvernement du Canada organisait ce laboratoire. Je me suis toujours dit que c'était pour obtenir de l'énergie, peut-être, et que c'était pour mieux comprendre le noyau de l'atome, mais je n'ai eu aucune idée jusqu'au fait public de l'explosion, je crois que c'était Hiroshima, la première, je n'ai eu aucune idée que ce laboratoire était associé à des projets proprement militaires de cette nature.
En dépit de la situation mondiale, les autorités de la ville de Montréal trouvent le moyen de souligner le 300e anniversaire de la fondation de la métropole par de multiples manifestations civiles et religieuses. Les employées féminines de l'hôtel de ville revêtent même un costume spécial pour la durée des célébrations. Cet anniversaire laissera un souvenir vivace, surtout chez les jeunes, sous la forme d'une chanson aux allures de cantique qui aura des échos dans tout le Québec. Nombre d'institutions d'enseignement en feront presque un hymne national durant plus d'une décennie.
Un peuple jeune encore qui grandit, frémissant.
En raison de ses origines mystiques, il était normal que l'ancienne ville Marie rappelle sa naissance par une cérémonie à l'église Notre-Dame, où le sermon de circonstance est prononcé par l'archevêque du diocèse, Mgr Joseph Charbonneau.
Les organisateurs de nos fêtes du 3e centenaire de Montréal ont voulu que l'événement principal destiné à commémorer la fondation de notre ville fut une cérémonie religieuse, la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe. Nous avons voulu mieux entrer dans l'esprit de nos pieux fondateurs qui ont marqué ainsi, mieux que n'aurait pu faire de longs discours, le caractère profondément religieux de leur entreprise. Le cadre a bien changé. Dans la même grande nature, aux horizons immenses, entre la montagne et le fleuve, s'élève aujourd'hui une vaste cité moderne qui grandit encore à vue d'œil, trop vite peut-être. D'origine à la fois catholique et française, Montréal est devenue, après 3 siècles, une ville cosmopolite qui reste toutefois en grande majorité fidèle à la foi de ses débuts. De l'Irlande, de l'Italie et d'autres pays d'Europe et même d'Asie sont arrivés des fidèles qui ont accru ici l'influence de l'Église. Les avantages commerciaux, industriels, économiques ont attiré depuis un siècle une multitude de non-catholiques dont la puissance matérielle est considérable et souvent décisive. Montréal a pris l'allure d'une cité aux coutumes, aux mœurs américaines.
Et pendant ce temps, le conflit mondial se poursuit avec des fortunes diverses. À partir de l'été 1943, il tourne finalement à l'avantage des puissances alliées. Le 8 mai 1945, l'événement tant espéré est annoncé depuis Londres. On s'y attendait certes depuis des mois, mais c'est malgré tout la surprise. Et la radio diffuse plusieurs fois le message.
This is London. The Prime Minister, the Right Honorable Winston Churchill.
At 2:41 a.m., the representative of the German High Command signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
En ce jour de victoire, congé spécial pour les élèves, des milliers de personnes descendent dans les rues de Montréal pour fêter l'événement. On déplore bien quelques actes de vandalisme, kiosques à journaux renversés et tramways, victimes de la joie populaire, mais rien de comparable à ce qui se passe à Halifax, où les dégâts se chiffreront à plus $1 million. À Montréal, les journalistes de la radio, dont Roger Boulu, couvrent cette journée fiévreuse.
Il y a à peu près une heure, la fin de la guerre a été annoncée officiellement. La guerre est finie, tout le monde est content, je pense. Hein? Nous vous parlons en ce moment de la rue Sainte-Catherine à Montréal. Nous sommes au coin de la rue Drummond et Sainte-Catherine. Les automobiles passent dans la rue, il y a beaucoup de bruit. Les gens circulent.
Le vibrant alléluia d'une victoire résonne triomphalement. L'apogée des valeureux faits d'armes à la gloire des nations alliées éclate en festivités brillantes et inusitées. Emporté par le flot délirant d'une réjouissance nationale, le peuple jubile, chante. Spontanément, il crie la victoire de ses armées. Montréal, métropole de l'enthousiasme et du rire, du sérieux et du labeur, exprime brillamment l'allégresse d'un jour si longuement attendu. La joie est indéfinissable. La joie n'a pas de bornes.
La fin de la guerre signifie le retour au pays de dizaines de milliers de soldats qui ont combattu en Europe, en Afrique et en Asie, et dont certains sont absents depuis le début du conflit. L'arrivée d'un train de soldats à l'une des gares de Montréal donne lieu à des scènes de retrouvailles émouvantes.
Mes chers auditeurs, les microphones de Radio-Canada sont installés sur la plateforme de la gare. La puissante locomotive, je crois que vous pouvez l'entendre en ce moment, précède un convoi à bord duquel ont pris place des militaires de Montréal, de Québec, de toute la province. Ils ne sont pas encore descendus du train, ces militaires. Mais vous devinez, n'est-ce pas, la scène qui va se passer dans quelques instants. Tout à l'heure, c'est en courant que ces hommes descendront du train. Ils auront la figure souriante. Ils se bousculeront pour courir dans les bras des êtres chers qu'ils n'ont pas vus depuis tant d'années. Mesdames et messieurs, les premiers militaires descendent maintenant du convoi. Quelques-uns de ces militaires passent maintenant devant nous. Ils ont la figure souriante, oui, mais quelques-uns, presque tous, ont un air grave. Ils sont un peu dépaysés.
En effet, ces hommes devront oublier les horreurs dont ils ont été témoins. Oublier, si c'est possible, la présence constante de la mort. Oublier aussi un héroïsme qui n'a pas sa place en temps de paix. En un mot, réapprendre à mener une vie normale. Il est cependant un soldat dont la carrière se prolongera durant plusieurs années et qu'on voit parfois encore sur nos scènes. Fridolin, personnage des revues Fridolinade, se transformera en Ticoque, grâce au talent de son créateur, le dramaturge Gracien Gélinas.
Il y a un gars, maintenant. On a chambré ensemble avant-guerre. Un gars qui avait l'air en parfaite santé comme moi, puis qui avait à peu près mon âge. Je ne marchais pas, pareil qu'il y avait un petit quelque chose qui n'allait pas. Pas si c'est dans le cave, ou dans le grenier, ou peut-être dans mes années, mais il y avait une petite affaire à pas connaître. Fait qu'il a eu sa discharge, il reste à Montréal, en plein chez eux, il risque rien, il fait 10 piastres par jour des munitions, puis par-dessus le marché, il est en train de me voler ma blonde, pendant que moi, classé A numéro 1, m'en va au diable le vin, risqué de me faire pétasser, c'est 1,30 piastres par jour.
Créée en 1948, la pièce connaît un immense succès populaire, atteint bientôt sa 100e représentation, et 4 ans plus tard, elle devient un film, dont René Lévesque dira, après le visionnement, « Le cinéma canadien sort des cavernes ». Nul mieux que l'auteur ne peut raconter la genèse de son œuvre.
Cette genèse, elle remonte à Fridolinon 45.
En effet, oui, c'est au cours de cette revue que vous avez créé le personnage du sympathique petit soldat dans votre sketch de départ du conscrit, n'est-ce pas?
Justement, oui. J'avais eu beaucoup de plaisir, je ne m'en cache pas, à jouer ce personnage. Et je ne lui voyais aucun avenir une fois la revue terminée. Seulement l'année suivante, un de mes amis voulut me convaincre de présenter dans un nouveau sketch le retour du conscrit. Alors, je lui ai démontré en 2 temps 3 mouvements que ce n'était pas possible. Parce que le petit soldat, au départ, était pathétique, parce qu'il s'en allait vers le danger. Mais qu'au retour, il n'était plus pathétique du tout, puisque le danger était passé.
Et quant à le faire revenir avec des béquilles, il n'en était évidemment pas question.
Évidemment. Seulement sans le savoir, ben, j'étais mordu. Et puis, rentré chez moi, j'ai continué à penser à mon petit soldat. Et puis, la première chose que j'ai su, j'avais trouvé la situation de retour. Enfant illégitime, et de se faire seul au monde, il reviendrait de la guerre pour trouver sa petite amie mariée à un autre. Alors, j'ai fait ce nouveau sketch. L'accueil sympathique que le public a bien voulu accorder de nouveau à mon petit soldat, mon petit conscrit, m'a mis dans la tête, après la fermeture de ma dernière revue, d'essayer d'en faire le héros d'une pièce.
Parmi ceux qui rendent hommage à Gracien Gélinas, il y a 2 personnages qui ont fait leur retour en politique juste avant la fin de la guerre. est Camillien Houd, d'abord, qui, libéré en août 1944 du camp de concentration, est réélu 4 mois plus tard maire de Montréal, poste qu'il occupera pendant encore 10 ans. Il y a ensuite Maurice Duplessis, qui gagne les élections provinciales de 1944 et s'installe au pouvoir à Québec pour les 15 années suivantes.
Nous avons besoin, au Canada français particulièrement, de votre esprit, de votre verve, de votre entrain, de vos dons, de votre satire et de votre sarcasme parfois. Je ne veux pas cependant, M. Gélina, et je vous en préviens, qu'elle s'applique sur moi d'abord.
Que non seulement M. Gélina donne des exemples fructueux et manifeste un talent glorieux pour la race et la province, M. Cy nous rappelle que nous, Canadiens, nous ne réalisons pas assez souvent l'indispensabilité de la coopération nationale, de la solidarité nationale, et nous comprenons malheureusement trop tard des fois comme il est nécessaire de s'unir, de s'entendre et se donner la main.
Si Gratien Gélina est devenu célèbre chez nous grâce à sa pièce, la romancière Gabrielle Roy, elle, atteint la notoriété internationale avec son roman « Bonheur d'occasion » qui remporte le prix Fémina en 1947. Gabrielle Roy est ainsi la première Canadienne à recevoir un tel honneur, tout comme elle sera la première à devenir membre de la Société royale du Canada. Bonheur d'occasion, qui amorce la veine du roman urbain dans la littérature québécoise, décrit la vie d'un quartier de Montréal durant la Deuxième Guerre mondiale. Une vie où la misère, trop souvent présente dans les milieux ouvriers, frappe surtout les femmes. Mais pourquoi l'époque de la guerre plutôt que celle de la grande crise?
Parce que le pauvre n'est pas à moitié aussi nécessaire à la paix qu'il l'est, qu'il l'a toujours été à la guerre. Je me suis demandé pourquoi on parle toujours de la bravoure des femmes d'autrefois, qui avaient à se battre contre les Iroquois ou qui avaient à tout faire de leurs mains. Je ne vois pas en quoi elles étaient plus courageuses que la petite d'aujourd'hui. Celle qui revient du fond de la ville dans un tramway surchargé, debout, oscillant de lassitude, avec une longue journée de travail derrière elle. Celle des restaurants, celle des fabriques, celle des filatures, celle des manufactures. Celle qui aide sa famille d'un misérable petit salaire, presque toujours moindre que celui d'un homme dans le même emploi, et qui ne le garde bien souvent que parce qu'elle est plus docile, moins exigeante. Et celle-là aussi, qui n'a à préserver que sa petite indépendance tellement menacée. La travailleuse, celle qui gagne son pain, celle qui coûte moins cher à l'industrie qu'un homme fort et solide.
Une des premières conséquences de la paix est la reprise de l'immigration. Le 1er janvier 1947, une loi crée une citoyenneté canadienne différente de la britannique. Les immigrants qui remplissent les conditions d'admissibilité doivent prêter serment afin d'obtenir la citoyenneté. C'est ainsi que le 8 janvier 1947, le maire Camillien Houd souhaite la bienvenue à un premier groupe de nouveaux citoyens.
Je ne voudrais pas négliger non plus d'offrir nos souhaits de bienvenue aux postulants de la citoyenneté ici présents, qui deviendront citoyens canadiens dans un instant. La patrie leur tend les bras après leur avoir d'abord ouvert ses frontières. Nous souhaitons qu'ils se sentent chez eux, chez nous. La ville de Montréal, métropole du Canada, se devait, plus que tout autre centre, peut-être, de bien démontrer l'importance qu'elle accorde au titre de citoyen du Canada à cause du grand nombre de néo-canadiens qui s'y trouvent déjà et aussi du grand nombre de ceux qui aspirent à obtenir cet avantage. Je crois être l'interprète des Canadiens de vieille souche en affirmant aux néo-canadiens d'aujourd'hui et de demain que nous ne nous attendons nullement à ce qu'ils oublient leur patrie d'origine, mais bien plutôt qu'ils en éprouvent une certaine nostalgie.
La ville que découvrent les nouveaux Montréalais est réputée pour sa joie de vivre et une certaine tolérance dans l'application des lois sur la moralité. On s'y amuse ferme jusqu'aux petites heures du matin, à tel point que le chansonnier Jacques Normand n'hésite pas à comparer les nuits de Montréal à celles de Paris.
On a de tout temps chanter les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux.
À Paris justement, le 23 novembre 1947, on peut écouter à la radio la diffusion d'un concert retransmis depuis Montréal. Le pianiste et compositeur André Mathieu, que l'on surnomme le Mozart canadien, est alors âgé de 18 ans. Il a déjà une longue carrière derrière lui. Première composition à l'âge de 4 ans, premier concert à 6 ans, études à Paris et New York, puis à nouveau à Paris, où il travaille la composition avec Arthur Honegger.
Allô Paris ? Ici la Voix du Canada. Le Service international de Radio-Canada vous présente son cinquième programme d'échange avec la radiodiffusion française. L'audition d'aujourd'hui est entièrement consacrée à l'œuvre d'un jeune compositeur canadien de Montréal, André Mathieu, dont l'Orchestre symphonique de Radio-Canada, sous la direction de Jean Baudet, interprétera le concerto romantique.
On a souvent comparé la musique d'André Mathieu à celle de Prokofiev et de Rachmaninov. La modernité dont fait preuve ce musicien, de nombreux créateurs veulent la voir s'exprimer également dans les autres domaines de l'art et plus généralement dans la vie intellectuelle qu'ils jugent sclérosée au Québec. Des artistes qui rejettent le conformisme ambiant et dénoncent ce qu'ils estiment être un manque de liberté de pensée, signent au mois d'août 1948 un manifeste connu sous le nom de Refus Global. Après avoir dénoncé toutes les peurs qui tenaillent les Québécois, ils formulent ainsi leurs espoirs et le programme qu'ils entendent mener. En termes imaginables, nous entrevoyons l'homme libéré de ses chaînes inutiles, réalisé dans l'ordre imprévu nécessaire de la spontanéité, dans l'anarchie resplendissante, la plénitude de ses dons individuels. D'ici là, sans repos ni halte, en communauté de sentiments avec les assoiffés d'un mieux-être, sans crainte des longues échéances, dans l'encouragement ou la persécution, nous poursuivrons dans la joie notre sauvage besoin de libération. Mais la population dans son ensemble est loin de contester le système dans lequel elle vit. Elle s'attache toujours aux grandes valeurs traditionnelles, comme en témoigne la popularité dont jouit la croisade du chapelet en famille, émission diffusée chaque soir sur les ondes de CKAC.
Directement de l'archevêché de Montréal, CKAC présente l'émission Le Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. C'est Mgr Paul-Émile Léger qui récitera ce soir Le Chapelet avec les invités de l'archevêché.
Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui il viendra juger les vivants et les morts.
En 1951, la ville de Montréal demeure toujours la métropole du Canada, car la population de sa zone métropolitaine est 2 400 000 âmes. alors que celle du Toronto métropolitain lui est inférieure de plus de 277 000 habitants. L'augmentation de la population tient à une immigration plus forte et à la poursuite de l'exode rural. Quant au cœur de la ville, où les autobus remplacent progressivement les tramways, il commence à connaître des problèmes aigus de circulation. Plus d'un quart de million de véhicules automobiles empruntent chaque année le pont Jacques-Cartier. La construction résidentielle reprend, avec la fin des restrictions dues à la guerre et avec la création de la Société centrale d'hypothèques et de logements. L'industrie a effectué sa reconversion à une économie de temps de paix et le secteur des transports connaît une impressionnante expansion. C'est l'âge d'or du port de Montréal, où sont transbordées chaque année plus de 5 millions de tonnes de marchandises. L'aéroport de Dorval relie Montréal aux grandes capitales et la ville joue un rôle important dans le monde aéronautique. Le 5 juin 1946, les délégués à la conférence constitutive de l'Organisation de l'aviation civile internationale ont choisi Montréal comme siège permanent. 4 ans plus tard, le maire Hood préside la cérémonie d'inauguration de l'immeuble abritant les bureaux de la nouvelle organisation.
L'immeuble que nous inaugurons réalise l'un de mes plus chers désirs. Il compense pour beaucoup d'autres dont le destin a été moins brillant. Lorsque Montréal a eu l'honneur d'être choisi comme centre de l'aviation civile mondiale, notre première pensée a été de loger convenablement les représentants de l'Association du transport aérien international et l'Organisation de l'aviation civile internationale. Je suis bien loin de croire que seule la ferveur de ce désir a fait surgir de terre cet imposant immeuble. Et il était normal pour Montréal, carrefour des lignes océaniques, nationales et internationales, d'aspirer à devenir un symbole dans le domaine de l'aéronautique.
Une ouverture au monde d'une autre nature a lieu le 4 septembre 1952, alors que des stations d'État de langue française et de langue anglaise commencent à diffuser des images. Voici comment le président de la Société Radio-Canada en informe le public.
It is now my privilege to declare the CBC's television service and station, CBFT, officially open. J'ai maintenant le plaisir et l'honneur de déclarer officiellement ouvert le service de télévision de Radio-Canada et le poste CBFT.
L'avènement de la télévision obligera les autres médias à s'adapter à cette nouvelle compétition et chaque événement sera souvent couvert dans ses moindres détails. Ainsi en est-il, par exemple, du retour dans la métropole le 29 janvier 1953 de son éminence Paul-Émile Léger, premier archevêque de Montréal à accéder au cardinalat. Jusque-là, en effet, seule la ville de Québec avait eu des cardinaux. Après avoir été recteur du Collège canadien à Rome, Paul-Émile Léger a succédé en 1950 à l'archevêque Joseph Charbonneau, qui a démissionné pour des raisons demeurées nébuleuses. Le nouveau cardinal effectue la traversée de Rome à New York, puis monte à bord d'un wagon spécial qui l'emmène à Montréal.
Chers auditeurs, la vaste salle d'attente de la gare Windsor a été prise d'assaut dès 6 heures ce soir par la foule montréalaise. Le cardinal Léger descend de son wagon. Et on entend déjà l'ovation de la foule ici à l'intérieur qu'il n'a même pas encore aperçu. Le cardinal Léger, vêtu de pourpre, portant le chapeau cardinaliste, salue déjà ceux qui ont pu s'approcher assez près du wagon, qui ont pu franchir les barrières. Et il sera dans la salle d'attente, de la gare, dans quelques secondes. Et des photographes, la foule se presse en dépit du cordon qu'ont établi les policiers. Et voilà que c'est maintenant un barrage de photographes qui prennent des instantanés. Et voilà, voilà son éminence dans la salle d'attente. La foule l'a aperçu. Vous entendez les acclamations, les applaudissements. Et Monseigneur Léger, le père du cardinal Léger, vient de s'agenouiller auprès de son fils pour baiser son anneau pastoral. Ainsi font de même tous ceux qui sont là présents. Montréal
Ô ma ville, tu as voulu te faire belle pour recevoir ton pasteur et ton prince. Tu as gardé de tes origines ce sens de la grandeur et de la chevalerie qui se traduit aux grandes heures de ton histoire par une attitude de fierté qui fait de toi l'un des points du monde où il fait bon habiter.
Les cloches, comme vous les entendez sûrement, se sont mises à tinter à toute volée au moment où le cortège, le défilé s'est engagé à l'extérieur.
Autant le retour de Paul-Émile Léger après son élévation au cardinalat est triomphal, autant son départ, 14 ans plus tard, sera discret. Durant son épiscopat, il fonde plusieurs organismes destinés à venir en aide aux plus démunis et il joue un rôle important dans la préparation du Concile Vatican II. En 1967, le cardinal démissionne de ses fonctions d'archevêque de Montréal afin de se consacrer à certaines populations démunies d'Afrique centrale, plus particulièrement au Cameroun, où il passera près de 3 ans, après quoi il reviendra à Montréal, tout en continuant à s'occuper très activement des œuvres et des institutions qu'il a créées en Afrique.
Quelques-uns se demanderont-ils, et à bon droit, pourquoi je quitte le navire au moment où il affronte la tempête. Et au fond, c'est justement cette crise religieuse qui m'incite à quitter un poste de commande pour redevenir un simple prêtre missionnaire. Le temps est venu de passer des paroles aux actes. Je veux consacrer les quelques années que le Seigneur voudra bien m'accorder à une assistance spirituelle et matérielle en faveur des lépreux. Je pars donc pour l'Afrique.
Si le cardinal Léger est la grande figure montréalaise dans le domaine religieux au début des années 1950, Jean Drapeau jouit, sur le plan de la politique municipale, d'un prestige aussi grand. L'enquête sur la moralité, suscitée par la Ligue d'Action Civique, lui a permis de se propulser, avec Pacifique Plante, à l'avant-scène de la vie municipale. Des élections à la mairie de Montréal se déroulent en 1954 et Camillien Houde ne se représente pas. 3 semaines avant le vote, le juge François Caron, qui préside à l'enquête sur la moralité, rend un jugement favorable au groupe de Pax Plante. Jean Drapeau est l'homme de l'heure et, le 25 octobre, il est élu maire avec une majorité de plus de 54 000 voix sur son plus proche adversaire. Voici en quels termes son compagnon de lutte, Pacifique Plante, le salue.
Je remercie la population de l'appui qu'elle a accordé à mon collègue des 5 dernières années. Lorsque je l'ai choisi pour collaborer avec moi à cette œuvre d'assainissement, je savais exactement de quelle trempe M. Drapeau était. Et non seulement je n'ai pas été désappointé, mais à chaque jour au cours de l'enquête, j'ai constaté que de plus en plus, M. Drapeau avait toutes les qualités d'un chef, un dynamisme extraordinaire et une probité non moins extraordinaire. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de l'appui que vous nous avez donné.
L'enthousiasme des membres de la Ligue d'Action Civique est débordant. Jean Drapeau profite de la circonstance pour faire le bilan de la lutte que son groupe vient de mener.
Montréal était en voie de perdre avec son âme la confiance de la population du reste du pays et la situation qui prévalait risquait à long terme de miner sa situation sur les plans économiques et sociaux. Il y avait une option à pratiquer, une seule, accepter, fût-ce en protestant, les chaînes de ce nouvel esclavage, ou les briser sans pitié. Nous avons opté résolument pour la seule attitude, digne de chrétiens et d'hommes libres. Nous avons fait cesser la collusion scandaleuse entre certains secteurs de l'administration ou de la police avec le monde interlope. Nous avons chassé de Montréal la majeure partie des artisans de l'avilissement systématique. Nous avons surtout, j'en ai la conviction, rendu à la population de la métropole confiance des autres, le respect d'elle-même.
L'enquête Caron avait montré, s'il en était encore besoin, les liens qui existent entre la prostitution et la pauvreté. Le quartier Chaud était situé dans une partie de la ville où pullulaient les taudis. Le conseiller municipal, Paul Dauzois, dirige un comité qui soumet, en 1954, un rapport préconisant la rénovation d'un quadrilatère du centre-est de la ville entre les rues Ontario et Sainte-Catherine. L'année suivante, le président de la Chambre de commerce de Montréal, Maurice Chartrand, réagit positivement au projet d'Auzois.
Dans le projet qui est soumis, on élimine les taudis et on reconstruit dans la région même, sur place. Avec différents stages, c'est-à-dire qu'on procède par stage, on élimine une partie des taudis, on reconstruit des habitations, on élimine une deuxième partie, on relâche les gens, sans trop déranger, si vous voulez, les personnes, de façon à ne pas les forcer à chercher des loyers ailleurs.
Santé morale et santé physique vont souvent de pair. Le nouvel hôpital Sainte-Justine s'installe dans le quartier de la Côte-des-Neiges. L'hôpital Maisonneuve ouvre ses portes dans l'est de la ville le 30 juin 1954 et le docteur Paul David y installe aussitôt l'Institut de cardiologie de Montréal qui en viendra à acquérir une réputation internationale. Devenu sénateur, Paul David trace en 1989 un bilan de son œuvre.
L'Institut a joué un rôle de leadership, c'est-à-dire que nous avons un regroupement de cardiologues, de chirurgiens, d'anesthésistes, de radiologues et de chercheurs très, très grands par rapport au nombre de lits qui constituent l'Institut. Et nous avons aussi relevé à peu près tous les défis de la cardiologie moderne, y compris la transplantation cardiaque, le laser, l'angioplastie, vous savez, le ballonnage des artères. Enfin, ce sont toutes des premières où canadienne ou québécoise.
Bien, je pense que la cardiologie, tout au moins, est connue maintenant mondialement. Et je pense que l'instrument qui a permis cette reconnaissance internationale d'une spécialité de pointe, c'est l'Institut de cardiologie de Montréal, qui a été fondé très modestement.
C'est à l'Institut de cardiologie qu'a eu lieu, le 31 mai 1968, la première greffe cardiaque effectuée au Canada, réalisé par l'équipe du docteur Pierre Grondin.
Alors, ce bulletin a été rédigé à 11 h ce matin en collaboration avec les docteurs Grondin et Lepage. L'évolution de M. Murphy demeure satisfaisante. On constate des chutes transitoires de la pression artérielle qui causent quelques inquiétudes et nécessitent l'emploi continu d'agents de support. Le malade est bien éveillé et il est encore assisté par un respirateur. Le rythme cardiaque est stable. Le prochain bulletin sera émis à 5h30 cet après-midi.
Le début des années 50 est aussi marqué par la disparition d'un des grands noms du nationalisme canadien-français, Henri Bourassa. Petit-fils de Louis-Joseph Papineau, il avait joué un rôle politique de premier plan et avait été le fondateur du journal Le Devoir en 1910. Henri Bourassa vivait dans une demi-retraite depuis la fin des années 40. Son décès à Montréal, le 31 août 1952, marque la fin d'une époque. André Lerando, chef de file nationaliste, qui fut rédacteur en chef du Devoir de 1947 à 1963, rappelle ses rencontres avec Bourassa.
Une rencontre avec Bourassa, ça voulait dire, en somme, un discours à peu près ininterrompu. C'est lui qui parlait. Nous pouvions bien un peu aiguiller la conversation par quelques questions, mais il partait et il fonctionnait, n'est-ce pas? Et il avait, c'était vraiment le type à ce point de vue-là du verbe moteur, mais en même temps, une intelligence, je dirais, d'intellectuel quand même, parce que les idées le préoccupaient beaucoup, et il avait une façon de raconter les histoires en fonction tout de même de la politique qu'il avait défendue jadis. Les vues de Bourassa sur certaines questions étaient, je pense qu'il faut l'admettre, passablement étroites, n'est-ce pas? L'action de Bourassa, à l'époque où il a vécu, a été plus forte qu'on ne l'imagine aujourd'hui. et est allé en dépit de sa doctrine canadienne, n'est-ce pas, dans le sens d'un réveil canadien-français. Ça, évidemment, à cause du sens qu'il donnait à l'acte de l'Amérique britannique du Nord, c'est-à-dire à la possibilité des Canadiens français à travers le Canada de vivre. Mais il me semble qu'il n'a jamais été tenté par l'indépendance du Québec. Jamais. Et ça, même quand il était très jeune. Et remarquez qu'à l'époque, le problème a été posé.
Mais si Bourassa est disparu, il reste Lionel Groulx, l'abbé Groulx, comme on l'appelle, à la fois historien éminent et véritable leader national. Voici en quels termes il parle de Bourassa.
J'ai assisté à des foules qui, je dirais, connaissaient les suprêmes frémissements tout proches d'un certain délire. En particulier, au Monument national de 1905, j'ai assisté à une ovation qui n'a pas duré moins de 10 minutes. C'est très long, vous savez, je n'avais pas encore tout à fait 40 ans, je crois. Vous savez, il était beau, c'était un homme rassé, il était élégant, certaines sveltesses du corps. Et ensuite, il avait une voix quelque peu nasigarde au début, mais qui très vite atteignait pas les tons chauds, puis qui devenait alors très métallique. Et puis, dans les grandes émotions, dans les grands efforts oratoires, surtout, elle devenait éclatante, haletante. Voilà.
L'abbé Groulx fut le créateur de l'enseignement universitaire de l'histoire en 1915 à l'Université de Montréal, l'auteur de dizaines d'ouvrages magistraux, en plus d'avoir été le principal penseur du nationalisme canadien-français à partir des années 20. Au début des années 50, il publie la synthèse de son œuvre historique, L'histoire du Canada français depuis la découverte. Sa notion du nationalisme est claire.
Le nationalisme, c'est la réaction normale, la réaction instinctive de tout Canadien français normal. Hein? À quoi Jean-Louis Gagnon m'a dit, mais alors, nous sommes tous des nationalistes. Mais j'ai dit, évidemment, même ceux qui ne savent pas. Vous tenez votre culture? Vous êtes prêts à la défendre? Vous êtes prêts à la faire s'épanouir? Et qu'est-ce que c'est que ça? Le nationalisme, ça veut dire nation. Et comme base, c'est la culture. Mon rôle a été ceci, c'est que jusqu'ici, Bourassa, comme Mercier auparavant et comme d'autres, hein, c'était sous-jacent depuis le régime français. Hein? Alors que les Canadiens, déjà, ne s'accordaient pas toujours avec les Français de France. Hein? Et ça continue après, évidemment, la conquête. Hein, ça s'est maintenu, ça. Vous les voyez tout de suite réclamer du français, de conservation des lois françaises, etc. Et ça va aboutir jusqu'à la Confédération, où nous imposerons la Confédération. Qu'est-ce que j'ai apporté au nationalisme? Leur apporter l'argument historique. Et vous, tous les jeunes nationalistes, toutes les jeunes nationalités qui sont éveillées au cours du 19e siècle, sont éveillées comment? Par leurs poètes et par leurs historiens. À un moment donné, les poètes se sont mis à faire des poèmes sur les origines, les beautés du passé. Les historiens les ont suivis et leur ont révélé, autrement dit, l'idée de nation. Alors, ils ont voulu avoir l'État, hein, en même temps. Et si nous avions, et vous savez, jusqu'à l'époque de Bourassa, nous avions, dans Bourassa, donné un choc formidable au nationalisme canadien-français, mais leur manquait l'argument histoire. Sans le vouloir, je l'apportais. C'est ce qui a fait ma petite notoriété.